Kevin Breton au micro en ce mardi 21 novembre. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Aime la vie, ce magazine où on s'intéresse à la santé, à la culture. On vous donne des petits trucs sur comment mieux consommer également. Aujourd'hui, je partagerai le micro avec Emmanuelle qui est en remplacement de Clotilde Seille. Elle nous a préparé deux belles entrevues, notamment avec Marie-Claude Fortier du Centre d'art-thérapie pédiatrique et également avec Maryse Lassonde, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec, co-organisatrice d'un congrès sur l'inégalité des genres dans le monde de la recherche scientifique. C'est une excellente entrevue, je l'ai déjà écoutée. Sinon, bien également notre chroniqueuse Ingrid Alfred qui sera là pour nous donner quelques petits trucs sur comment bien budgétiser nos dépenses à l'approche de Noël, évidemment, et de tous ces cadeaux qui viennent avec. Également, on est en plein mois de novembre, souvent le mois le plus difficile sur le plan psychologique. On va pouvoir s'entretenir, en fait, avec un chercheur de l'Université du Québec en Outaouais qui va nous expliquer comment la réalité virtuelle peut venir en aide aux personnes aux prises avec des troubles de santé mentaux. Tout ça et bien plus dans un instant à Aime la vie. Le vendredi 17 novembre dernier avait lieu la toute première journée nationale de la maladie de Meniere. C'est fort possible que vous ne la connaissez pas parce que c'est une maladie qui est rare. Et c'est d'ailleurs pourquoi nos deux prochaines invitées ont décidé de créer avec leurs collègues une journée consacrée afin de faire la lumière sur cette condition. Au bout du fil, on rejoint deux personnes qui sont atteintes de cette maladie, Nancy Porter et Diane Gagnon. Bonjour mesdames.
Bonjour. Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer la maladie de Meniere? Bon, j'ai fait des recherches. Je sais que ça concerne principalement les oreilles, l'ouïe, l'audition. C'est quoi les principaux symptômes?
Les principaux symptômes sont souvent une trilogie, les vertiges accompagnés de nausées, une perte auditive importante, des acouphènes persistants.
Très bien. Et puis, comment est-ce qu'on est diagnostiqué? Comme dans votre cas, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes diagnostiqué de cette maladie?
J'ai eu le diagnostic il y a 3 ans à la suite d'une crise majeure lors d'un problème là, vraiment d'équilibre parce que c'est normalement ça affecte énormément l'équilibre et c'est à la suite de déduction qu'un spécialiste en ORL normalement va diagnostiquer cette maladie-là qui est assez obscur et difficile à cerner.
Pourquoi est-ce que c'est si difficile de faire un diagnostic de cette maladie? Est-ce que c'est que les médecins la connaissent pas suffisamment ou c'est parce que les symptômes varient trop d'un patient à l'autre?
Je crois que les médecins, on va parler plus de spécialistes, alors c'est l'ORL qui est plus spécialisé à ce niveau-là. Je crois qu'ils connaissent quand même bien assez la maladie. C'est qu'il faut être certain avant de donner ce diagnostic-là. Alors, il y a des tests à passer. On a, entre autres, il faut aussi amener notre vécu, c'est-à-dire ce qu'on vit comme symptômes. Et par la suite, on doit passer un test d'audition parce que ça l'affecte l'audition. Alors, quand on a des crises de Meniere, notre audition diminue. Par la suite, on va passer aussi un VNG qu'on appelle, c'est un test de vertige qui va confirmer aussi si on a la maladie de Meniere. Et souvent, ils nous font passer soit une IRM ou des tacos pour éliminer d'autres maladies.
Puis est-ce que ça se manifeste différemment d'un patient à l'autre ou si c'est sensiblement les mêmes symptômes, c'est-à-dire perte d'équilibre, acouphènes?
Les manifestations deviennent presque individuelles, on pourrait dire, dans la maladie de Meniere. Chaque personne a une partie objective que l'ORL constate à partir des tests que Nancy vient de dire.
L'ORL, mais, c'est l'otorhinolaryngologue?
C'est ça. Et il y a aussi la partie subjective qui est l'apport de la personne qui est atteinte, c'est-à-dire ce qu'elle vit, comment elle le vit, l'intensité, la fréquence. Alors, c'est assez difficile pour ça, mais malgré les tests probants, c'est quand même une question, il y a sur le temps aussi que la maladie peut jouer. Il y a des périodes plus d'accalmie, il y a des périodes plus intenses, il y a des crises, il y a des épisodes. Alors, c'est très différent là, d'une personne à l'autre, c'est variable et ça va aussi avec la personnalité. On s'entend oui. que...
Mais les symptômes sont les mêmes. Les symptômes sont quand même les comme j'ai expliqué par rapport au test, ça, c'est vraiment, comme Diane aussi, la triologie, c'est vraiment la même chose. Là. Comme moi, ça a commencé différemment. Moi, ça a commencé par des... Moi, ça fait 24 ans et je l'ai dans les deux oreilles. Ça a commencé par, moi, de l'acouphène, tout simplement. Et les vertiges sont venus quelques mois plus tard. Comparativement à Diane, elle, que c'était le vertige qui est venu au départ.
Et c'est des situations qui sont évidemment très handicapantes au quotidien parce que ça vous met KO pour une journée au complet ou en tout cas, c'est des épisodes qui peuvent s'étaler sur plusieurs heures.
Oui, bien, il y a des vertiges qui peuvent durer 5 minutes, comme il y en a d'autres qui peuvent durer 12 heures. Il y en a même, ça peut durer 24 heures.
Wow.
Ça dépend aussi de la crise, comment elle se manifeste, l'intensité. Mais effectivement, même moi, si j'ai un vertige qui dure 10 minutes, bien, je suis inapte pour continuer ma journée. Je dois beaucoup me reposer. Le repos est vraiment, on peut dire, un remède pour nous aider. C'est sûr que plus que la crise est longue, plus que ça prend des journées à s'en remettre.
Ouais, semble-t-il que les personnes qui vont souffrir d'un épisode de la maladie de Ménière vont vraiment se sentir vidées en énergie dans les heures qui suivent.
Vous êtes bien renseigné, effectivement.
Oui, Kevin. Et puis, il y a aussi la partie imprévisible de cette maladie-là, c'est-à-dire que on sent certaines choses venir, mais c'est quelque chose qui peut être très subi. Dans certains cas, il y a aussi des facteurs environnants qui vont augmenter la probabilité d'une crisette ou d'un épisode ménière. Et ça, c'est à considérer dans le quotidien. C'est ce qui devient aussi un peu dans le sens... on peut moins faire d'activités, il faut limiter certaines choses parce qu'on est toujours enclin à avoir les symptômes, la fameuse symptomatique, la trilogie de Ménière, c'est-à-dire les vertiges, les nausées et le reste.
Est-ce que c'est difficile à gérer au quotidien, cette crainte permanente-là qui nous guette de subir un épisode de crise?
Bien, on apprend à vivre. Il faut se donner les outils, c'est sûr. On peut recevoir de l'aide aussi par les centres de réadaptation de chaque région, qui sont un service que moi je trouve très important. On peut recevoir des services en audiologie, en orthophonie, en physiothérapie vestibulaire, mais ça c'est plus au privé. En orthophonie, je l'ai dit, c'est ça.
Oui.
Et gérer notre journée, moi, je considère, en tout cas, quand je me lève le matin, je ne suis pas comme une personne qui n'a pas la maladie de Ménière, parce que déjà, j'ai un déficit d'équilibre, je suis malentendante. Alors, le taux de fatigabilité vient vite à son maximum dans la journée. Moi, je dois faire toujours une sieste dans l'après-midi parce que je suis trop fatiguée, tout simplement.
Mais est-ce que sinon, il existe d'autres solutions pour tempérer les effets si on peut pas, puisqu'il n'existe pas de remède en ce moment contre la maladie de Ménière, est-ce qu'il existe quand même des solutions pour diminuer les effets?
Bien, évidemment que au niveau de l'ORL, la base de l'ORL dans cette maladie-là, c'est surtout au niveau médical. Il y a, oui, des médications, des traitements qu'on choisit selon ce que l'ORL nous donne comme... effet secondaire comme possibilité justement d'amenuiser cette maladie-là dans le quotidien. Mais il n'y a rien de parfait, il n'y a rien qui guérit, c'est chronique et c'est au patient et à la rencontre ORL ou avec les plusieurs rencontres qu'on décide d'un traitement qui souvent va beaucoup, beaucoup diminuer. Il va donner une possibilité à la personne de fonctionner quasi normalement. Mais encore là, c'est toujours, il y a toujours des récidives, c'est toujours à reprendre. On repart à zéro quand on a un autre épisode. Mm-hmm. On se refait revérifier en audiologie avec l'ORL et là, on reprend des plans d'action. Mais il y en a plusieurs, oui. Il y a une progression aussi parce que la maladie devient de plus en plus connue. Alors, et on parle d'hérédité, on parle de toutes sortes de facteurs, donc ça aussi. Ça fait partie là, des recherches. On espère surtout, comme quand on parle avec des gens, la faire connaître, briser l'isolement aussi que ça crée, parce qu'au départ, on a l'impression que les gens qui nous voient nous pensent pas malades. On n'a pas quelque chose de très physique. C'est pas démontrable physiquement. C'est très difficile à démontrer. Donc, déjà là, on part en recul.
Très bien. Ben, c'est justement l'objectif de cette journée nationale que vous avez créée. En terminant, est-ce qu'il y a un site Internet qu'on peut consulter si on veut en apprendre davantage sur la maladie de Ménière?
Ben, vous pouvez aller sur le site de l'association ABDA. C'est www.info@abda.ca. Il y a une page Facebook de l'Association des personnes avec une déficience de l'audition. Il y a une page Facebook Maladie de Ménière. Alors, il y a de l'information qui est donnée à ce sujet. Et nous sommes, cette journée-là va se reproduire, va se poursuivre les prochaines années. Nous sommes en démarche pour que ça soit reconnu au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, c'est censé se faire d'ici quelques semaines.
APDA.ca, donc si on va avoir plus d'informations, puis on vous invite également à consulter la page Facebook. On va mettre toutes les informations sur notre page sur visevoix.com également, si vous voulez consulter. Merci beaucoup Nancy, merci beaucoup Diane.
Et merci à toi Kevin.
Merci Kevin.
Bonne poursuite dans la suite des choses. On sera de retour dans un instant.
Donc, merci Kevin et bonjour à tous. Cette semaine, je viens vous parler d'un sujet qui a attiré mon attention et c'est l'inauguration à la mi-octobre dernier d'une salle d'art-thérapie au Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières. C'est un centre qui dessert actuellement plus de 300 enfants de 0 à 14 ans qui ont vécu des traumas complexes et nécessairement précoces. C'est grâce à la Fondation Richelieu et à un don qu'ils ont fait de 20 000 $ que l'ouverture de cette salle d'art-thérapie a pu avoir lieu. Et on a avec nous aujourd'hui Mme Marie-Claude Fortier, qui est art-thérapeute au Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières. Bonjour Mme Fortier.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, merci.
Très heureuse de vous avoir aujourd'hui pour nous parler de l'inauguration de cette salle-là qui est innovatrice. On sait que l'art-thérapie existe. Je vais vous demander de démystifier ça un petit peu, mais tout d'abord, ce qu'on sait, c'est que la salle à Trois-Rivières, elle est différente de ce que vous avez vu ailleurs au Québec.
Oui, certainement. C'est, je suis très fière de cette salle-là parce que elle est rare. Hein? Comme vous disiez, on entend un peu parler d'art-thérapie, mais c'est rare qu'on va retrouver un lieu comme ça, vraiment un espace là, pour permettre, dans ce cas-ci, aux enfants là, de créer librement.
Donc, c'est vraiment spécifiquement et exclusivement pour l'art-thérapie. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu c'est quoi l'art-thérapie?
Oui, bien, l'art-thérapie, dans le fond, c'est une forme de relation d'aide. On utilise les arts plastiques, donc les médiums artistiques, les crayons, les pastels. Donc, j'ai tout ça dans ma salle, de la peinture, le collage, l'argile, plein de choses aussi, même recyclées, pour que l'enfant puisse construire là, des choses. Donc, on utilise l'art. Le mot de thérapie, hein, dans art-thérapie, c'est vraiment pour se questionner, réfléchir sur le sens de notre œuvre. Puis moi, comme art-thérapeute, bien, je vais amener l'enfant à réfléchir, comme je disais, sur sa création, sur le sens que ça a pour lui. Puis ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on rend visible, dans le fond, quelque chose d'invisible. Dans tout le monde, les émotions, l'inconscient, c'est invisible.
Mais c'est ça.
Donc, c'est là que l'art vient nous aider.
Parce qu'on l'a dit, ce sont des enfants qui ont vécu des traumas. Est-ce que vous pouvez nous parler du genre de trauma que vous voyez les enfants, ce qu'ils ont vécu et qu'est-ce qui est véhiculé dans l'art et le jeu chez l'enfant par rapport à ça?
Oui. Bien, en fait, en pédiatrie sociale, on a des enfants qui proviennent de milieux plus vulnérables, je dirais, donc qui sont souvent, qui ont souvent vécu des stress toxiques. Donc, toxique, on veut dire que d'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose qui est menacé là, pour l'enfant.
L'intégrité.
Dans sa situation, tout ça, juste l'exemple de dire, bien, si l'enfant, il ne sait jamais si le parent va être présent pour lui, que ce soit pour l'accueillir, pour l'aider dans quelque chose, bien, l'enfant va avoir de la difficulté à créer sa confiance en lui. Donc, ça, c'est des situations dans lesquelles ces enfants-là sont souvent. Donc, c'est ça qu'on appelle le stress toxique. Puis, ensuite de ça, bien, ça peut amener à des problèmes d'anxiété ou différents autres problèmes. On entend souvent parler aussi du TDAH. On a beaucoup d'enfants hyperactifs. Donc, ça fait beaucoup dans leur monde intérieur, dans le fond, à gérer.
C'est des symptômes qu'on voit d'un mal invisible beaucoup plus grand. Comment on a accès aux services que vous offrez dans cette salle-là? Comment les parents qui nous écoutent, qui désiraient avoir le service, peuvent y avoir accès?
Oui, mais en fait, à Trois-Rivières, c'est ça, on a le centre qui dessert environ 5 km autour du centre. Dans le fond, les familles qui sont dans ce cercle-là ont accès au centre. Il faut faire une référence là au centre, puis on va choisir, dans le fond, les enfants qui ont un besoin médical et un besoin social. OK, donc c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui a accès au centre de pédiatrie sociale. Il faut vraiment avoir ce besoin-là parce que nous, on a une équipe là, multidisciplinaire qui va être organisée autour de l'enfant pour guider l'enfant et sa famille, dans le fond, là, pour les aider à progresser et tout ça. Là.
Mais c'est ça.
Donc, c'est vraiment avec une référence qu'on peut avoir accès au centre.
OK, donc c'est vraiment, ce qu'on comprend, c'est un service de deuxième ligne, voire de troisième ligne pour des enfants. C'est un service qui est spécialisé. Puis vous l'avez nommé, il y a vraiment une équipe qui est multidisciplinaire. J'ai eu vent, ou je connais quand même les méthodes projectives chez l'enfant en cas de traumatisme sexuel, par exemple, d'utiliser le dessin et le jeu. Qu'est-ce qui différencie l'art thérapeute d'un psychologue qui utiliserait ces méthodes projectives-là, par exemple? Quel est votre rôle précis à vous?
Oui, bien, dans le fond, on va vraiment aller utiliser qu'est-ce qui est visible là, dans la création. Donc, on va vraiment utiliser la création pour l'amener à réfléchir sur le sens. Je vous dirais que dans les méthodes projectives, souvent, il va y avoir des associations de faits.
Tout à fait.
Donc, moi, c'est vraiment, je vous dirais plus, pour stimuler la réflexion, la communication, puis tout ça avec l'enfant. Puis bien sûr, les art-thérapeutes, on a une formation aussi qui est spécifique là, à l'art-thérapie.
Vous êtes les professionnels de l'outil lui-même, tu sais.
Oui.
Nécessairement, parce que et c'est majoritairement utilisé avec les enfants, ça peut être également utilisé avec les adultes?
Ah, avec tout le monde, hein, parce que tout le monde a besoin de s'exprimer.
Effectivement.
Tout le monde a ce besoin-là, donc
de base.
Outils, tu sais, ça peut être, moi, c'est vraiment ma passion, c'est d'amener les gens à s'exprimer, tu sais, puis à être conscient aussi de tout ce qui se passe. Ça peut se faire de différentes façons, mais les arts, comme je disais tantôt, étant donné qu'on a quelque chose de visuel avec lequel travailler, c'est ça qui est intéressant. Mais vous savez, avec le chant, par exemple, hein, on peut s'exprimer d'une façon extraordinaire, on se sent libéré. Donc, c'est un petit peu la même chose avec les arts qu'on peut aller chercher, mais en plus, amener comme la réflexion, puis les enfants, ils vont créer quelque chose. Puis des fois, là, ils vont me dire « Ah oui, c'est ça que je ressens. T'sais, il est là devant moi. Là. Je ne suis pas capable de trouver les mots, mais je l'ai devant moi. » Donc ça, c'est vraiment rassurant, je vous dirais. Là.
OK, donc ils se comprennent eux-mêmes. Il y a un effet miroir un petit peu là-dedans. Là,
où... Ah oui, vraiment, c'est la base de leur thérapie. C'est vraiment ça.
Et rondement, là, je sais qu'il y a une différence entre le service offert sur le plan individuel et de groupe. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est quoi les avantages, les différences des deux façons d'intervenir chez les enfants?
C'est ça, moi, à Trois-Rivières, j'offre autant le groupe, l'individuel, mais aussi en dyade avec le parent et l'enfant. En groupe, c'est ça ce qui est intéressant, c'est que, comme je vais vous donner l'exemple cette semaine, j'ai eu mon groupe avec sur la colère. On a parlé de l'émotion de la colère. Chaque enfant a créé son propre volcan là, qui représentait l'émotion de sa colère. Puis quand je vais les revoir la semaine prochaine, je vais leur demander de mettre à l'intérieur qu'est-ce qui provoque cette colère-là, puis le faire déborder de leur volcan.
Wow.
Donc là, l'interaction que j'ai, parce que c'est un exercice que je peux faire en individuel aussi, mais l'interaction entre les jeunes, puis qui peuvent parler ouvertement, « Ah, moi, c'est ça qui me met en colère, moi, c'est ça. » Il y a comme vraiment, là, l'effet de groupe est vraiment intéressant avec les enfants, là, parce qu'ils ont une belle spontanéité, là. Puis tout ça, puis là, ça va aider certains à faire réfléchir sur autre chose, OK? Il y en a cette semaine qui m'a nommé, il dit « Ah, moi, c'est l'injustice. » Fait que là, il dit « Ah oui, moi aussi, j'ai vécu de l'injustice. » Là, il raconte son événement, donc c'est l'effet de groupe est vraiment intéressant aussi. En individuel, bien, on va pouvoir aller un peu plus en profondeur dans ce qui est travaillé.
Un peu plus en profondeur, et j'imagine que les traits personnels de l'enfant, comme des enfants qui vont tomber dans le mutisme, par exemple, un silence complet, là, on va y aller plus en individuel pour pouvoir avoir accès à son monde intérieur qui est difficilement... communiquer, j'imagine.
Oui,
donc,
c'est ça. Ça va vraiment dépendre aussi de l'enfant, de son besoin. C'est là qu'on va établir là, en équipe quel service d'art-thérapie aussi va être le mieux pour l'enfant. Là.
Mais moi, je vous en parlerai pendant des heures et des heures.
Oui.
C'est quelque chose qui me passionne énormément. Donc, on comprend que la salle d'art-thérapie est maintenant fonctionnelle, qu'elle est chez les jeunes, qu'elle est en groupe, mais aussi individuelle et qu'il y a toute une panoplie de professionnels qui sont autour de ça. En terminant, une trentaine de secondes, dites-moi, qu'est-ce qui nous attend dans le développement de cette salle-là dans un futur assez proche, je vous dirais?
Bien, c'est certain qu'on espère voir grossir le centre,
oui,
et physiquement et à travers l'équipe, hein, d'avoir plus de professionnels autour de l'enfant. Puis si je peux terminer en disant aussi que le 16 décembre prochain, dans toutes les régions, il y a la guignolée, dans le fond, pour les centres de pédiatrie sociale. Donc, les gens vont être à l'extérieur là, toute la journée pour ramasser des fonds. Donc, si ça vous touche, là, cette approche-là, bien, les fonds vont permettre justement de pouvoir augmenter les services à ces enfants-là.
16 décembre prochain, bien noté.
Oui.
Madame Fortier, merci infiniment de cette belle échange-là. Merci de votre temps. Merci d'avoir partagé cette chose-là avec nous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et de notre côté, on se fait plaisir et on passe en musique.
Emmanuel, pour cette belle entrevue. J'entendais ton invité nous parler de la guignolée. Ben oui, évidemment, de plus en plus de rendez-vous qu'on marque à l'agenda et au calendrier sont sur la page du mois de décembre, ce qui signifie que Noël arrive. Qui dit Noël dit souvent cadeau, mais dit également réception, souper en famille. Il y a beaucoup de dépenses qui viennent au menu dans les prochaines semaines. Et on reçoit notre chroniqueuse Ingrid Alfred, spécialiste en finances personnelles, pour nous donner quelques idées sur comment budgétiser ces prochaines semaines qui peuvent parfois faire mal au portefeuille. Bonjour Ingrid.
Bonjour Kevin.
Est-ce que toi, tu dépenses beaucoup à Noël?
Malheureusement, quand même beaucoup, mais j'essaie d'y remédier.
Aujourd'hui, tu nous emmènes d'ailleurs des trucs parce que c'est possible quand même de succomber à la féerie de Noël sans nécessairement saigner à blanc son portefeuille.
Tout à fait. Alors oui, on peut offrir un beau Noël à sa famille sans laisser toutes les économies. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi ou si toi, Kevin, tu es comme moi, mais moi, les lumières de Noël, waouh, ça me tente de... Les décorations, ça me tente de toutes les acheter.
Ça t'émerveille.
Ça m'émerveille. Aussi, ça m'est déjà arrivé, les achats dernière minute. Puis aussi le fameux stress lié au parfait cadeau.
Mm-hmm.
Je ne sais pas pourquoi, on veut comme tout un « wow » quand on donne,
ouais,
un cadeau. Alors, la problématique, c'est qu'on se met tellement de pression pour le temps des fêtes. Alors, quoi faire? C'est la question qu'on se poserait bien. Alors, c'est sûr, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est qu'il faut connaître nos objectifs, c'est-à-dire combien d'argent on a pour dépenser.
Oui, parce que souvent, on se lance dans la dépense des fêtes un peu sur un coup de tête,
mm-hmm,
mais c'est pas une bonne idée de ne pas prévoir. C'est plate un peu de devoir se faire un budget pour Noël dans une fiche Excel, là, mais c'est une bonne idée, en fait, d'avoir un budget structuré.
Exactement. Alors, le budget, c'est tout simplement une permission de dépenser, mais de façon planifiée. Alors souvent, on peut associer, comme tu l'as dit, pardon, le budget à quelque chose de négatif, comme si je me prive, mais bien au contraire, ça nous permet vraiment d'avoir qu'est-ce qu'on veut sans dépenser un seul sou.
C'est un outil.
Exactement. Alors, pourquoi budgéter? On va budgétiser pour le temps des fêtes trois grandes catégories, les cadeaux, la nourriture, puis les activités. Alors, voici quelques petits trucs pour vous, trucs et astuces pour chacune des catégories. Alors, si on commence par les cadeaux, diminuez le nombre de personnes à qui vous donnerez un cadeau. Alors, on peut, par exemple, décider pas de cadeaux entre adultes, juste pour les jeunes, les enfants.
Les enfants, ben oui, parce que c'est leur fête.
Exactement. Un autre point aussi, on peut utiliser les points accumulés sur nos cartes de crédit pour les échanger contre cadeaux. Carte cadeau, c'est le fun. On achète des cadeaux sans dépenser un seul sou.
Un seul sou dépensé. Oui, parce qu'on peut penser, par exemple, on peut acheter une boîte de chocolat très facilement dans une épicerie après avoir accumulé des points.
Effectivement.
J'y pense pas. Puis ça, c'est des points qu'on accumule à chaque année. Donc, à chaque Noël, on peut avoir un cadeau gratuit.
Exactement. Aussi, soyez créatifs. Pensez, c'est quoi votre spécialité? Pourquoi pas cuisiner votre spécialité au lieu d'acheter les fameuses bouteilles de vin? Quand on y pense, après une, deux, trois invitations, ça quand même, ça coûte cher.
Donc,
tu conseilles
quoi, une petite marmelade ou de la confiture?
Des beaux petits pots de confiture fait maison. C'est touchant parce qu'on a réellement pris le temps pour...
Puis il y a moyen de faire ça de manière, de faire avec une présentation esthétique pas très coûteuse. On se rend au Dollarama, on achète un pot maçon. Oui, ouais, tout à fait.
Exactement. Et au niveau des activités, la dernière catégorie, rappelons-nous des beaux moments. Souvent, là, quand on va se rappeler des beaux moments, on ne va pas penser à un cadeau. Ce sera plutôt une ambiance, un jeu d'activité où que toute la famille est partie à rire. Donc, essayons de reproduire qu'est-ce qui a fonctionné dans le passé. Aussi, prendre connaissance de la programmation de notre ville, quartier. Aussi, pour les activités gratuites.
Souvent, les activités gratuites, mais des fois, c'est difficile de ne pas se combler parce qu'un marché de Noël, bon, c'est gratuit s'y rendre, mais une fois sur place, on a le goût d'acheter des tirs, puis on a le goût d'acheter des bonbons de Noël, puis...
C'est sûr, mais il faut essayer de se contrôler quand même. Il y a quand même on a accès quand même à un vaste panoplie d'activités.
Surtout si on est dans la région de Montréal, là, je pense qu'on est très gâtés.
Très gâtés.
Souvent, chacun des arrondissements ont leur propre activité familiale, très souvent aussi,
exact,
qui sont offertes sans le moindre coût.
Exactement. Et comme dernière activité, mais non la moindre, le bénévolat.
Ah, c'est un excellent conseil. Quand en même. Terminant, est-ce qu'on peut quand même mettre un pourcentage sur combien d'argent on devrait mettre dans notre budget en début d'année? Est-ce qu'on le calcule en fonction de notre salaire ou on met un plafond?
Alors, les planificateurs financiers conseillent 1,5% du revenu annuel.
Oh, OK. Bon, je savais pas. Si on gagne, par exemple, 25 000 $ par année, on aurait une dépense de 375 $ en faisant une petite règle de 3 rapidement.
Exactement.
Puis avec 375 $ il y a amplement d'argent si on est créatif pour gâter tout le monde.
Exact.
Merci beaucoup, Ingrid. Je te souhaite beaucoup de beaux cadeaux. À toi,
toi
à ta
aussi,
famille.
Kevin.
Merci beaucoup. Nous, ben, c'est ce qui conclut la... Première demi-heure de Aime la vie. On sera de retour dans un instant. On entend de plus en plus parler du potentiel de la réalité virtuelle dans le domaine médical. Il y a par exemple des chercheurs qui utilisent ces technologies-là pour soigner les douleurs fantômes que peuvent ressentir les personnes amputées. Le potentiel ne s'arrête pas là. Il pourrait même venir en aide aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. On rejoint au bout du fil Stéphane Bouchard, professeur au département de psychoéducation et psychologie de l'Université du Québec en Outaouais. Bonjour, Monsieur Bouchard.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord à nous, néophytes, parce que vous êtes également titulaire de la Chaire de recherche du Canada en cyberpsychologie clinique, c'est quoi exactement la cyberpsychologie?
La cyberpsychologie, de façon large, là, c'est l'étude du cyberespace ou d'un monde numérique artificiel recréé par l'informatique. Mais de façon plus concrète, on peut voir les exemples, par exemple, de la réalité virtuelle. où l'utilisateur, l'usager ou le client met ses lunettes et se retrouve dans un environnement 3D relativement ou extrêmement réaliste. Et quand on bouge la tête, quand on tourne alentour de soi, on se déplace, bien, l'environnement suit nos déplacements comme si on était pour de vrai. Et le psychologue ou le professionnel de santé mentale à l'écran à côté voit sur son écran ce que le client voit, ce qui nous permet de créer des contextes standardisés, mais qui se veulent chargés d'émotions à des fins thérapeutiques.
Et puis bon, l'image qu'on a souvent de la réalité virtuelle, vous l'avez mentionné, c'est l'exemple des lunettes que l'on porte, mais vous, à l'Université du Québec en Outaouais, vous allez plus loin avec une voûte immersive carrément, une espèce de cube. En fait, ce qu'on comprend, c'est que c'est d'autant plus immersif que de porter de simples montures.
Tout à fait. Les environnements qu'on développe depuis 1999 ici à Gatineau couvrent l'ensemble du spectre des technologies possibles. On parle là, du visiocasque facilement disponible jusqu'aux voûtes, aux cubes immersifs de grande dimension là, où tu es debout. C'est le holodeck de Star Trek, en fait. Tu es debout, il y a des images qui sont projetées sur les murs de toutes les faces, sont projetées en stéréoscopie, donc en 3D, et les objets flottent devant toi. Ce qui est intéressant à la voûte qu'on possède ici à l'UQO, c'est que les images sont projetées sur les 6 côtés, c'est-à-dire que le plafond, le plancher et la porte d'en arrière lorsqu'on ferme. Et donc, on est complètement immergé dans les environnements virtuels. Des voûtes à 6 faces comme ça, il y en a 10 dans le monde. Et la seule qui est dédiée à la santé mentale, c'est ici au Canada et à Gatineau que ça se passe. Parce que justement, on peut complètement bluffer le cerveau pour se donner l'impression qu'on est dans cet endroit virtuel-là.
Bluffer le cerveau, je pense que c'est le bon mot. Puis en ayant une voûte comme ça, il y a même moyen d'ajouter à l'expérience sensorielle, pas seulement avec la vue, mais également l'audition, le sens du toucher. Vous nous parlez de mettre en contexte avec différents troubles psychologiques. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de comment la réalité virtuelle pourrait venir aider quelqu'un à combattre une phobie, par exemple?
Oui, mais dans le cas des troubles, tous les troubles anxieux, phobies ou autres, l'ingrédient essentiel, et on sait que c'est vrai depuis une vingtaine d'années, là, c'est d'apprivoiser nos peurs progressivement. Et l'art de la psychothérapie, c'est de savoir comment le faire. Mais il faut apprivoiser nos peurs. Alors qu'en réalité virtuelle, bien, on peut mettre nos lunettes, puis le psychologue, ça ne change pas la nature de sa thérapie. C'est juste que lorsqu'arrive le moment d'apprivoiser nos peurs, des araignées, des endroits clos, des hauteurs, des vols en avion, de parler en public ou n'importe quel trouble anxieux, bien, on met nos lunettes, puis là, on se retrouve dans cette situation-là, dans un restaurant où il y a des gens, puis on peut interagir avec des personnages virtuels ou dans une maison où sur le comptoir, il y a une araignée. Donc, le psychologue ou le professionnel de la santé mentale peut assister son client pour apprivoiser ses peurs, mais dans la sécurité du bureau, au rythme qu'on a besoin, sans brusquer les choses.
La réalité virtuelle a ce luxe de permettre, en fait, un contrôle sur les phobies, ce qui fait en sorte qu'on ne confronte pas nécessairement quelqu'un à une peur de l'avion, à des turbulences en plein vol. On va y aller graduellement avec un vol ou même une entrée dans l'aéroport pour commencer.
Absolument, et c'est ça le plus gros avantage, c'est que c'est plus simple pour le professionnel de santé mentale de doser ce qu'on va faire vivre vraiment au rythme du client. Ça peut être moins coûteux également, parce que si on parle des vols en avion, le client il a pas envie de se déplacer et lui et moi prendre l'avion. Puis on peut faire des choses qui sont plus agréables dans l'intimité du bureau, par exemple, justement, parler en public. Bien, j'ai pas besoin de recruter un public, ce qui pourrait impliquer des bris de confidentialité, alors que là, je suis avec mon bureau, dans le client, ses lunettes. Puis si on enlève les lunettes, bien, on est juste tous les deux ensemble. Obsession-compulsion, stress post-traumatique, même chose. On est toujours dans le bureau et on peut faire vivre les choses au rythme où c'est nécessaire.
Donc, ce n'est pas de la science-fiction. On applique vraiment les mêmes notions de psychologie habituelle, mais avec un nouveau procédé, un nouvel outil qui est la réalité virtuelle.
Absolument, parce qu'il faut comprendre que l'ingrédient intéressant, au fond, c'est d'être capable de berner le cerveau et d'utiliser le fait que les émotions réagissent un petit peu plus rapidement que la logique, en quelques millisecondes à l'avance. Donc, si on a les bons indices qui permettent de stimuler les émotions vont se déclencher et prendre toute la place chez l'individu, chez le client ou la cliente, même si les gens vont dire « c'est pas logique parce que c'est virtuel », oui, mais c'est pas grave, les gens aussi ils savent que leur peur, quelque part, elle est un peu exagérée, mais malgré tout, ils ont peur. Alors en virtuel, on a la même relation, on a l'équivalent, c'est-à-dire que même si les stimuli sont virtuels, les émotions, elles, sont réelles.
permet de contrôler un peu plus l'irrationnel. Également, ben, c'est étudié depuis quand même quelques années, cette idée-là que la réalité virtuelle peut venir en aide pour combattre les phobies ou les troubles obsessifs compulsifs. Mais est-ce qu'on pourrait aller encore plus loin en l'utilisant pour, par exemple, combattre la déprime ou une dépression ou des cas plus majeurs?
Bien, on voit de plus en plus là, un foisonnement des applications de la réalité virtuelle. Des troubles anxieux, vous mentionnez les symptômes de membres fantômes. On commence à avoir des applications pour la schizophrénie, les troubles alimentaires et des évaluations en neuropsychologie, en neuropsychiatrie. Et on s'en va aussi vers les troubles d'humeur, par exemple, les maladies bipolaires, les troubles de personnalité limite. C'est à la fine pointe de ce qui se développe dans les laboratoires, donc c'est pas toujours immédiatement disponible, comme c'est le cas pour nous avec les troubles anxieux, parce qu'on peut effectivement se procurer des environnements virtuels, pas les clients, mais les professionnels pour faire de la thérapie, mais des trucs pour la dépression et d'autres applications, je vous dirais, dans quelques années. On est encore dans le développement.
Grâce à votre expertise et celle de vos collègues, l'Outaouais est en train de se bâtir une petite réputation de plaque tournante de recherche sur la réalité virtuelle et vous allez même accueillir l'été prochain à Gatineau un congrès sur la réalité virtuelle. Est-ce que vous pouvez m'en dire un mot en terminant?
Bien, tout à fait. Du 26 au 28 juin, on reçoit le congrès ou l'Association internationale de cyberpsychologie, si je peux résumer ça ainsi. Et on va recevoir entre 300 et 500 chercheurs d'un peu partout dans le monde. Et les gens, s'il y avait des auditeurs qui font de la recherche dans le domaine, ils sont bienvenus pour soumettre des résumés. Et puis, il va y avoir des ateliers de formation. Il y a peut-être certaines activités ouvertes au grand public. Mais les dates à retenir, c'est du 26 au 28 juin à Gatineau, événement international de sciences sur la cyberpsychologie.
Oui, on sait qu'il y a d'autres universités au Québec, notamment à l'UQTR, qui fait des recherches sur le sujet. Merci beaucoup, M. Bouchard, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. C'est vraiment apprécié.
Ça fait plaisir.
Nous, on s'en va maintenant en musique, puis après, on sera de retour avec une dernière entrevue.
Chaude dans le centre belle, je vois des gens partout triper les choux sur leur salle. C'est moi qui ai perdu, mais c'est pas naturel. Le monde est virtuel. J'ai mon profil Facebook plugé sur mon Twitter. Celui de Twitter plugé dans mon toaster. Fait que là mes muffins anglais reçoivent des courriels. Le monde est irréel. Tout le monde est tout seul. Parti, tout le monde est parti. Si loin, tout le monde est si loin. Je m'ennuie. Donne-moi de la haute performance, le reste on s'en calisse. Donne-moi des films porno dans mon lave-vaisselle. Le monde est sexuel. Oublie ça la politique, donne-moi de l'informatique. Oublie ça la culture, donne-moi quelque chose qui fait dur. Chacun dans ses bobelles, chacun tout seul sur son sel. Le monde est virtuel. Plus c'est pareil. Y a-tu quelqu'un dans l'appareil? Y
As-tu quelqu'un pour me parler? Envoyez-moi un message privé. Y a-tu de la vie dans mes amis? La vérité sur mon clavier? Y a-tu du sang derrière les cartes? C'est juste du vent, c'est juste du vent.
Le Gender Summit, ou le Sommet sur les genres, existe depuis 2011. Ce sommet se penche sur l'inégalité des genres dans le domaine de la recherche, de l'innovation et du développement, en concordance avec le 150e anniversaire du Canada et le 375e anniversaire de Montréal. C'est 700 personnes qui tentent de faire progresser l'égalité des genres dans ces domaines qui se sont rassemblées pour la première fois à Montréal. C'était du 6 au 8 novembre dernier, co-organisé par le Conseil des recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, représenté par son directeur des programmes Serge Villemur, et par le Fonds de recherche du Québec. On a avec nous la directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie, Mme Maryse Lassonde, pour nous en parler. Bonjour, Mme Lassonde.
Bonjour, vous allez bien?
Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Très, très heureuse de vous avoir avec nous.
Ça me fait plaisir d'être là.
Vous avez votre baccalauréat en psychologie obtenu à l'Université de Montréal. Vous avez également un doctorat en psychologie obtenu à l'Université de Stanford en Californie. Vous êtes psychologue et vous avez été nommée directrice du Fonds de recherche du Québec en 2011, en même temps que le sommet. Quel beau hasard! Vous avez vu les deux côtés de la médaille, donc... Je trouve que c'est déjà une très, très bonne nouvelle d'avoir une femme à un poste aussi haut, hein, un poste de directrice pour une organisation aussi importante. C'est quoi la situation actuelle de l'inégalité des genres dans le domaine scientifique aujourd'hui?
Ben, écoutez, c'est que dans le domaine de tout ce qui est sciences naturelles, génie, mathématiques, tout ce qui est informatique, il y a une très, très, très grande inégalité. Les femmes ne sont pas présentes. Dans le fond, par exemple, dans l'agence subventionnaire que moi je dirige, il y a seulement 20% de femmes qui font des demandes de subvention. Alors, c'est vraiment parce qu'elles sont pas présentes et c'est malheureux parce que l'économie future, c'est vraiment une économie qui va être basée sur l'appropriation des sciences, des mathématiques et surtout de l'informatique.
Mais c'est l'avenir. Et comme vous l'avez dit, ça englobe tous les autres domaines. Et là, vous me dites qu'il y a une femme sur cinq qui est présente.
Tout à fait.
En termes de présence, mais quand on parle d'obtenir les subventions à ce moment-là, est-ce que vous voyez une différence entre les hommes et les femmes une fois qu'ils sont dans leur position de chercheur?
Pas du tout. Le taux de succès est le même. C'est 50 % la même chose. Les hommes et les femmes réussissent tout aussi bien, mais on ne reçoit pas de demandes de femmes ou très, très peu. Mais celles qu'on reçoit sont excellentes, tout au moins aussi bonnes que celles des hommes.
Donc, du moins, leur crédibilité n'est pas remise en cause une fois qu'elles y sont, mais s'y rendre est plus compliqué. Cette année, le sommet avait comme thème « Adopter le pluralisme et prospérer grâce à la diversité, façonner les sciences et l'innovation ». Qu'est-ce qu'on entend par pluralisme et diversité? Parce que j'ai l'impression que ça va bien au-delà des genres.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a d'autres groupes aussi qui ne progressent pas du tout en sciences. On compense simplement aux peuples autochtones, donc eux aussi ne sont pas présents en sciences.
C'est une réalité.
Donc, on avait fait. Oui. Oui, c'est une réalité. Et eux aussi doivent avancer à travers les sciences et faire leur place dans la société à travers ça. Mm-hmm. Non seulement eux, mais on avait aussi une session plénière sur toute la communauté LGBTQ2, parce que eux également, dans un monde, vous savez, comme le monde des sciences pures, des mathématiques, du génie, très souvent, on a le portrait d'un homme blanc ou asiatique, très, très hétérosexuel, en fait, et puis donc pas d'autres modèles. Hein.
Un gros stéréotype, là.
C'est un gros stéréotype, mais c'est aussi parce que c'est le modèle existant. Et donc, pour la communauté LGBTQ, c'est la même difficulté que pour les femmes, c'est-à-dire faire leur place dans une communauté qui est majoritairement composée d'hommes qui ont donc une attitude assez spécifique.
Effectivement. Donc là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'identité de genre est également un problème et peut miner la vocation ou l'expansion de la compétence d'un individu, ce qui est quand même inquiétant.
Oui, en fait, ce qui arrive, c'est que, on le sait maintenant, il y a des études qui l'ont montré, très souvent, les gens qui viennent de ces communautés-là ne voudront pas du tout parler dans leur milieu de travail de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre parce qu'ils ont peur d'être rejetés, ils ont peur aussi que ça nuise à leur progression, à leur promotion, et donc ça crée chez eux, très souvent, vous savez, dans le milieu de travail, on peut se sentir anxieux, et ça peut provoquer l'abandon même d'une carrière.
Oui, parce que c'est pas comme si on passait pas une très, très grande partie de notre temps au travail, ça doit être un moment ou un lieu où on peut s'épanouir.
Tout à fait, se sentir à l'aise dans ses choix personnels, tout autant que dans les choix professionnels, et c'est pas le cas pour le moment.
Je vous entends complètement. Je veux aborder absolument la charte Athéna-Swan, qui était un autre but du sommet cette année. Cette charte a été élaborée en Grande-Bretagne, déjà adoptée en Australie. En pourparler chez nos voisins américains, c'est quoi cette charte-là et qu'est-ce que le Canada veut faire avec cette charte-là?
Bon, voilà, c'est que, justement, au Royaume-Uni, les agents subventionnaires ont décidé de pousser pour l'égalité, pour l'inclusion au niveau des établissements universitaires qui finançaient. Alors, ils ont établi une série de bonnes pratiques et puis c'est devenu maintenant, si on veut, ça fait partie d'une charte, toutes ces bonnes pratiques. Et les institutions universitaires, pour recevoir du financement, doivent démontrer qu'elles ont des politiques valables d'inclusion de la diversité. Et puis, il y a maintenant des façons d'adhérer à ces politiques en rentrant dans en se faisant... si on veut
reconnaître,
par cette charte-là. Donc, il y a plusieurs niveaux. Vous pouvez rentrer au niveau bronze, vous pouvez augmenter au niveau argent, au niveau or. Mais donc, c'est quand même assez difficile. Et puis, il y a un examen qui est refait à tous les 3 ans pour être sûr que la certification est toujours valable. Et ça a vraiment donné lieu à des avancées incroyables parce que maintenant, il y a de l'équité, non seulement au niveau de l'embauche des professeurs, mais également au niveau de l'embauche du personnel. Ils ont adapté aussi les milieux pour que ça soit, pour que la conciliation famille-travail soit beaucoup plus agréable, donc des garderies dans les milieux, toutes sortes de choses comme ça qui ont permis finalement d'avoir vraiment une meilleure atmosphère dans les milieux de recherche et les milieux universitaires.
Mais absolument. Puis ce qu'on voit aussi, puis c'est merveilleux parce qu'on voit que ça fonctionne, que c'est efficace, que les institutions universitaires, les instituts universitaires veulent cette certification-là. Elle est bien vue et on l'a vu.
C'est très bien vu. Absolument, c'est très bien vu. Et non seulement c'est bien vu par les universités, mais maintenant, les départements des universités veulent avoir leur propre charte à ces instants, veulent aussi avoir leur reconnaissance. Ils ont réalisé finalement que les conditions de travail étaient bien meilleures, que les conditions de vie étaient meilleures aussi. Et donc, c'est vraiment un grand succès. Puis, c'est en train d'être employé, comme vous l'avez bien dit. Maintenant, ça s'est répandu en Irlande, en Australie. Et les États-Unis et le Canada regardent également très attentivement pour adhérer à cette charte-là.
Et justement, c'est ce que je veux en venir et on va terminer là-dessus. On va parler de délai. Madame Lassonde, j'aimerais savoir, le Canada se donne combien de temps pour appliquer ces nouvelles stratégies-là d'inclusion et qu'est-ce qu'on s'attend du sommet sur les genres dans les prochaines années? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on voit avancer?
Ben, pour moi, ce serait superbe si on pouvait avancer très vite dans l'adhésion à ce programme-là, Athénaïs One. Université Canada, qui est un grand regroupement de toutes les universités du Canada, veut aussi y adhérer, mais c'est évident que pour changer et faire accepter ça au niveau local, au niveau provincial, parce que l'éducation, c'est quand même de juridiction provinciale, ça va prendre quand même un certain temps. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce temps-là devienne très, très court. Et puis, c'est sûr qu'au Québec, on a une volonté par la vice-première ministre et la ministre de la Science, Mme Dominique Andelade, elle pousse très fort pour que l'on puisse y adhérer le plus rapidement possible.
Parce qu'elle comprend bien l'enjeu ici. Et dans les prochaines années, qu'est-ce qu'on veut pour les femmes dans ces milieux?
Bon, pour les femmes, mais pour toutes les autres minorités qui ont des difficultés, oui. Je souhaite vraiment que chacune puisse faire sa place dans le domaine des sciences, dans le domaine de l'administration aussi, dans le domaine des finances, parce qu'il y a des domaines aussi où il n'y a pas assez de représentation de la diversité. Donc, c'est ce qu'on souhaite le plus possible. On va y travailler très fort.
Madame Lassonde, merci infiniment.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot 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 doot. Do 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 do
Ah, ça m'a fait un grand plaisir de m'entretenir avec vous aujourd'hui encore pour cette belle émission de Aime la vie. Merci à Emmanuel pour les entrevues et pour la recherche. Merci à Christiane aux communications et merci à Mathieu, toujours à la mise en onde, notre humble serviteur qui choisit toujours allègrement la musique pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours mardi à midi. On a déjà plusieurs beaux sujets de prévus. Il sera notamment question de douleur chronique avec l'Association québécoise de la douleur chronique. Et également, on va recevoir une voix que vous avez déjà entendue souvent à Canal M, celle d'Isabelle Ducharme, pour nous parler d'un investissement du gouvernement du Québec de 5 millions pour favoriser un tourisme accessible à tous. On sait que l'organisme Kiroul donne des certifications, des mentions accessibles à certains organismes à vocation touristique. Eh bien, ces organismes qui veulent obtenir ce libellé-là vont pouvoir avoir accès à une subvention afin de rendre leur installation accessible. Ça va fonctionner comment tout ça? Bien, Isabelle Ducharme sera là pour nous en dire plus la semaine prochaine. Donc, manquez pas ça. Moi, encore une fois, je vous dis merci d'avoir été là. À la semaine prochaine et gardez le sourire.